Bonjour à tous, c'est Une vie, une œuvre, aujourd'hui, Jean-Jacques Pauvert. Jean-Jacques Pauvert est né à Paris le 8 avril 1926 et meurt le 27 septembre 2014 à l'âge de 88 ans à Toulon. On a dit de lui, Jean-Jacques Pauvert, c'est l'homme libre. Il s'est surtout fait connaître par la réédition d'œuvres oubliées, proscrites ou considérées comme marginales et la publication de nouveaux auteurs dont beaucoup ont été des best-sellers. Au lendemain de sa mort, l'humanité titre. Sans craindre les procès, il a tiré Sade de l'enfer, publié Histoire d'eau et n'a suivi que son goût qu'il avait sûr et bien loin de tout préjugé d'ordre moral. Jusqu'alors, l'œuvre de Sade avait toujours été diffusée sous le manteau. Pauvert fait face à un procès historique où il est défendu par le légendaire avocat Maurice Garçon. Dans le magazine Libre Hebdo, il a inventé les années 60, dit de lui Annie Lebrun. Débutant dans un garage avec un livre de Sartre, Jean-Jacques Pauvert, franc-tireur arc-bouté contre la censure, laisse à sa mort l'image d'un éditeur audacieux et secret. C'est dans le jardin secret de Jean-Jacques Pauvert que vous convie aujourd'hui Céline Duchesnay et Laurent Pauleret.
J'ai passé 17 ans avec lui. Pendant 17 ans, je l'ai vu tous les jours. Ça fait quand même beaucoup.
Jean Castelli.
Et à un certain âge, on se retourne facilement sur son passé en se disant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était bien? Ce n'est pas bien et tout. Parce que je l'ai quitté en 73. Alors, j'ai eu le temps de me retourner. Et j'en suis arrivé à la conclusion que les 17 ans que j'avais passés chez Jean-Jacques Pauvert étaient les 17 plus belles années de ma vie professionnelle. Je n'ai jamais retrouvé ni quelqu'un comme de sa dimension, ni l'ensemble du travail qui était fait ensemble et avec toute l'équipe de Jean-Jacques Pauvert. Tout ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein, parce que Jean-Jacques Pauvert est un être dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas simple. Hein, dans le fond, c'est la vie. Hein, il y a des choses qui vont bien, puis d'autres qui vont mal et tout. Bon, puis après, quand c'est terminé, plus tard après, on fait le bilan. Quoi. Bon. Alors moi, Jean-Jacques Pauvert représente quelqu'un d'essentiel dans ma vie, quoi, de primordial.
Jean-Jacques Pauvert, un obsédé textuel, un documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Pauleret.
Il faut dire que j'étais le dernier survivant, hein, le dernier des Mohicans, hein, comme m'a dit je sais pas qui. Hein. ils sont tous morts. Voilà, là, l'intérêt de vivre, hein, j'ai 91 ans, moi, ça fait quand même, commence à faire beaucoup. Mais à cet âge-là, autour de vous, les gens disparaissent. Donc Chantal, que j'avais connue chez Pauvert, naturellement, et qui nous connaissait bien, s'est dit, ça doit être le témoin numéro un, privilégié. Et c'est vrai que je suis le témoin de l'époque glorieuse de Jean-Jacques. Voilà.
Chantal Aubry, auteur de Jean-Jacques Pauvert, l'irréductible.
Jean-Jacques avait une personnalité à la fois douce et forte, c'est-à-dire qu'il avait surtout envie de faire des livres depuis l'âge de 19 ans. Il sacrifiait tout, y compris les problèmes financiers, quelque part, à ce désir, ce fort désir de faire des livres. Il avait vraiment, c'était une passion. Il a toujours bataillé sur tous les fronts, de manière diverse parfois, mais pour continuer son destin d'éditeur, où c'était, voilà, c'était son identité à 110%. Et donc, malgré toutes les difficultés qu'il a eues, puisque comme éditeur indépendant, Dieu sait s'il a été de représentatif de cette génération d'éditeurs indépendants qui ont été avalés par les grosses machines, il s'est battu bec et ongles jusqu'au bout, même s'il a perdu la bataille, à mes yeux, il reste totalement irréductible.
Il était tellement sauvage. Ça correspondait à son côté extrêmement sauvage. Et en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression, quand j'entends les gens parler de lui,
Corinne Pauvert,
que les gens qui l'ont connu de l'extérieur et uniquement à travers le livre ont manqué un côté très important chez lui. C'était son côté irrémédiablement sauvage. Quand il parlait de Mowgli, C'était comme s'il avait parlé de lui, en fait. Je lisais le livre de la jungle. Pour moi, c'était tout papa, par exemple, l'enfance de Mowgli. Et quelque part, ce côté sauvage qu'il n'a jamais perdu et que moi, j'ai côtoyé jusqu'à la fin. C'est pour ça, en fait, parce que je suis, et c'est malheureux, la dernière personne, avec mes enfants quand même, à pouvoir parler de son côté violent et sauvage, qui s'exprimait par toutes ses activités manuelles et ses activités forestières. C'était vraiment un homme des bois, papa. C'est pour ça qu'il est allé toute sa vie dans le massif des morts avec maman, et que cette maison était si importante pour lui. Quand il est arrivé là-bas, il n'y avait pratiquement pas de route. En tout cas, le peu de route qui existait, qui montait dans les collines, n'était pas asphaltée. Ils montaient avec maman dans les collines, avec leur sac à dos. Et c'est tout juste, ils n'y dormaient pas. Après, ils ont fait construire une maison en plein milieu des bois. Et je pense qu'ils se sentaient tellement proches des animaux sauvages. Ça me paraissait naturel. Mais en fait... c'est très rare les gens comme ça, ou en tout cas, généralement, ce sont des gens qui sont effectivement forestiers, paysans. Il était très très sauvage, papa. Et personne n'en parle de ça. Donc je suis venue pour dire que mon père était un homme des bois, et que, en fait, les livres dont j'ai le plus parlé avec lui, c'est Jules Verne, Rudyard Kipling... Les romans policiers, ça on en a beaucoup parlé. Il aimait le côté carrément voyou des personnages de romans policiers. D'ailleurs, il m'a toujours dit qu'il avait failli mal tourner et que c'est ma mère qui l'avait remis dans le droit chemin. Je ne sais pas si j'ai intérêt à raconter des trucs comme ça. C'est un secret.
J'ai commencé chez Gallimard parce qu'il fallait travailler, c'était la guerre. Mes parents m'ont dit « tu veux pas travailler au lycée, faut que tu travailles, faut que tu gagnes ta vie, on pourra pas te nourrir toujours, etc. etc. » J'avais 15 ans, c'est quand même un peu tôt, mais enfin c'était comme ça. Et puis mon père a eu l'idée, après plusieurs essais, comme ça il connaissait Gaston Gallimard, il lui en a parlé, Gaston Gallimard lui a dit « Oh ben, un garçon qui lit, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas travailler chez nous ?» Pourquoi pas? Moi, on m'a proposé ça, j'ai pas sauté de joie. Hein. Je me suis dit, bon, faut travailler, ça me faisait suer de travailler à 15 ans. Et puis, je me suis retrouvé apprenti vendeur à la librairie Gallimard, boulevard Raspail. J'ai été d'abord présenté à Gaston Gallimard, qui est en fait le personnage important. Le premier que j'ai rencontré, ça a été Gaston Gallimard, qui était fort gentil, un peu cérémonieux, comme ça, qui m'a dit, monsieur, vous aimez les livres, pourquoi ne travailleriez-vous pas chez nous à la librairie Gallimard? Je n'allais pas dire non, hein. Alors c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de livres et beaucoup d'écrivains. Donc comme je m'intéressais aux livres, je me suis intéressé aux écrivains. C'est toujours intéressant de voir des gens qui arrivent et sont les gens qui ont écrit les livres qui vous intéressent. Là j'ai connu vraiment beaucoup de gens. Puis ceux qui venaient pas, j'allais les voir. Il y avait Gallimard à côté, hein, parce que moi j'étais à la librairie, mais du 15 boulevard Raspail à la rue Sébastien Botin, il y a pas loin. Et à l'époque, c'était pas une chose qui se faisait beaucoup. Puis moi, j'étais un peu inconscient, j'avais 15 ans, 16 ans, et je me disais, j'ai envie de rencontrer Raymond Queneau. Alors j'allais rue Sébastien Botin, je poussais la porte, et à l'époque, on entrait là-dedans comme dans un moulin. Hein. Il y avait les noms sur les bureaux. Je voyais Raymond Queneau, je frappais, j'entrais. Je disais, voilà, vous êtes Raymond Queneau, oui, je vous dérange pas. Alors, les gens disent rarement oui. À l'époque, ils disaient, maintenant, on a intérêt à dire oui, si, vous me dérangez, écoutez, revenez plus tard, téléphonez-moi, prenez rendez-vous. Ils me disaient, entrez, asseyez-vous, vous voyez arriver cette espèce de gamin. Mais à l'époque, les gens faisaient pas ça. Et moi, je le faisais un peu systématiquement. Je voulais voir la tête qu'ils avaient.
Frédéric Martin, éditeur, a accompagné Jean-Jacques Pauvert dans la rédaction de ses mémoires intitulées « La traversée du livre ».
C'est en fait une question hyper importante d'essayer de chaîner son parcours d'éditeur un peu mythique avec son enfance. La compréhension de ce chaînage, je l'ai fait que tardivement. Au moment où on a travaillé sur les mémoires, je voyais l'enfance presque comme une introduction, un passage obligé pour arriver à l'important qui était le travail d'éditeur. Et en fait, c'est le contraire. L'enfance explique plein de choses sur à la fois qui était Jean-Jacques Pauvert et peut-être ce qu'était un éditeur, ou ce qu'est encore aujourd'hui, j'espère, un éditeur. Jean-Jacques avait un profil donc de mauvais élève. Il était renvoyé des écoles régulièrement tous les 6 mois. Et donc de Guerlas, à un moment, son père qui était journaliste, connaissait des gens dans l'édition, comme beaucoup de journalistes, et organise un rendez-vous avec Gaston Gallimard. Et les mémoires s'ouvrent sur ce rendez-vous d'ailleurs. Alors jeune homme, il paraît que vous aimez lire. Et Jean-Jacques bouffait vraiment beaucoup de livres. C'était un gros lecteur. Son père était un grand lecteur, son grand-père était un grand lecteur, donc il y avait des bibliothèques où très tôt il a eu accès à beaucoup d'œuvres. Et en fait, plus qu'un mauvais élève, je pense que c'était une sorte de profil de surdoué, donc un mélange à la fois de vivacité et d'impatience. Il allait très vite sur certaines choses, et il était comme un peu un camé en manque. Il n'arrivait pas à trouver son alimentation. Et pourquoi je dis que c'est important de comprendre ça pour comprendre ce qu'il a été comme éditeur? C'est que quand on regarde le parcours de Jean-Jacques, donc il commence à travailler dans le livre comme libraire pendant la guerre, et tout de suite il se trouve dans un bouillon de culture assez extraordinaire, parce que il rentre dans la librairie Gallimard comme commis, donc en gros il ouvre les cartons dans l'arrière-boutique, mais tout de suite il va être dans un bain de culture où il se retrouve Jean Paulhan, tous les gens de la NRF, et c'est là où il va entendre parler de Sade, et en fait la chance et en même temps le génie de Pauvert, c'est de s'être retrouvé avec des personnes qui avaient l'âge de ses parents, et lui l'énergie de la jeunesse. Et comme il avait cette voracité-là, il s'est survolté. Mais vraiment comme un système électrique, c'est qu'on l'a mis en surchauffe, et comme l'appareillage était très solide, parce que Jean-Jacques Pauvert était vraiment très intelligent, et ben il a résisté à la décharge électrique, et il a embrayé. Et c'est ça un éditeur. Moi, je l'ai compris tardivement parce que on a toujours cette figure de l'éditeur comme autorité intellectuelle. Mais pas du tout. Pauvert, en étant taquin, disait, de toute façon, la plupart des éditeurs, ils lisent pas. Ce qui n'était pas son cas. Hein. Lui, il est mort avec une bibliothèque personnelle de près de 40 000 ouvrages. Donc, c'était un gros, gros lecteur. Mais ce qui fait la qualité d'un éditeur, c'est pas une autorité. Il n'est pas là pour faire une norme littéraire. Il est là pour trouver la nourriture dont il a besoin pour se sentir bien. Et Jean-Jacques Pauvert, l'histoire de la traversée du livre, c'est ça. C'est l'histoire d'un affamé qui cherche. Et comme il avait très faim, il est allé chercher partout. Il pouvait publier Le Marquis de Sade, mais aussi La Comtesse de Ségur, Le Littré, mais aussi l'histoire de l'art d'Elifort, de l'ésotérisme et en même temps des dessinateurs comme Wolinski, qui n'ont rien d'ésotérique. Enfin, voilà, une des petites merveilles que j'ai dans ma bibliothèque de ce qu'a fait Pauvert, c'était 2 petits volumes. Il distribuait ça en fin d'année aux copains. C'était 2 recueils de dessins de Wolinski qu'il a fait coup sur coup 2 fois en fin d'année, qui s'appelle « Elle ne pense qu'à ça », qui est une pornographie jubilatoire des années 60. Aucun éditeur, à mon avis, de cette époque, et a fortiori aujourd'hui, n'aurait le culot de publier les demeures philosophales de Fulcanelli et des petits trucs porno qui étaient en fait tout aussi intelligents. Et lui, il n'avait aucun problème de hiérarchie littéraire, parce qu'il restait aussi à sa manière un autodidacte. Il avait fait sa culture par la bande. Il a été aussi libraire d'anciens, donc il chinait, il trouvait des choses d'Arien, le voleur. Voilà, livre très important aussi pour Jean-Jacques. Doublement important. Dans ce qu'il incarne, une figure de rebelle absolu. Et en même temps, c'est le livre avec lequel il considère qu'il était devenu éditeur. Un livre majeur qu'il a trouvé en Chine. Et cette liberté-là, c'est celle de l'éditeur. Un éditeur ne sait jamais, en littérature encore une fois, ce qu'il va publier à l'avance. Il dit pas, tiens, là, ça serait bien que je publie un roman qui se passe à la campagne avec une histoire d'amour. Et pourtant, à un moment, il va tomber sur un manuscrit en disant, mais c'est ça que je cherchais, je ne le savais pas. Et là, la machine se met en marche, on crée une belle maquette. Quand il a publié Histoire d'eau, il a quand même eu le culot de glisser un petit carton à l'intérieur en disant, j'en ai la certitude, ce livre sera un des plus grands livres du XXe siècle. Il en a vendu des millions d'exemplaires aujourd'hui, mais les premières années, ça se vendait sous le manteau, ça se comptait sur les doigts d'une main quasiment, les gens qui achetaient le livre. Mais lui, il en avait la certitude. Parce que l'impact que ça avait eu sur lui, et c'est peut-être là l'égocentrisme d'un éditeur, c'est de croire que ce qui m'a touché en tant que lecteur, bah une fois que je vais le publier, va toucher le monde entier.
En
En 1945, Jean-Jacques Pauvert publie son premier texte, Hors commerce, l'explication de l'étranger par Jean-Paul Sartre. Il a 19 ans. Puis le 1er mars 1946, il devient éditeur à l'enseigne du Palimugre. Il y publie des textes d'Henri de Monterland, Marcel Aimé, Albert Camus, Jean Cocteau ou Jean Genet. En décembre 1947, il sort sa première publication sous le nom de Jean-Jacques Pauvert. Il s'agit d'Histoire de Juliette du Marquis de Sade.
Ben, Poulon, quand j'ai dit « Ah bon, ben alors moi je vais éditer Sade », je me souviens de Poulon, par exemple, disant « Mais enfin, Jean-Jacques, vous êtes fou, c'est parce que vous êtes jeune, vous vous rendez pas compte. » C'est à ce moment-là que pour moi la question s'est posée justement de la littérature interdite. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas éditer Sade ? Alors il avait une réponse très simple, c'est parce que ça a toujours été condamné. Les éditeurs clandestins de Sade ont toujours été poursuivis. Alors je dis, oui, mais moi, ce ne sera pas clandestin, je vais mettre mon nom dessus. Alors là, faut dire, bon, j'avais 20 ans, j'étais un peu inconscient. Je prévoyais qu'il y aurait des problèmes, je ne me rendais pas compte, puis je voulais les toucher du doigt. Qu'est-ce que c'est que ces livres interdits ? Pourquoi c'est interdit ? Au nom de quoi ? Et je n'ai d'ailleurs jamais eu de réponse. Parce que je m'attendais, dans le grand procès qu'il y a eu et qui a fini par se plaider donc en 1953 et puis en 1955, avec Maurice Garçon, je m'attendais à ce qu'on aborde. Moi, je n'avais jamais participé à un procès du genre. J'avais lu les procès des Fleurs du Mal, etc. Mais je me suis dit, ça a évolué. On va parler vraiment du sujet, c'est-à-dire pourquoi un livre doit-il être interdit. Et on est resté très en deçà. Maurice Garçon, lui, plaidait l'histoire. Il disait, vous comprenez, vous ne pouvez pas condamner un auteur qui est mort en 1814. Très discutable. Mais ça marche, hein. Ça porte sur les juges. Parce qu'effectivement, 1814, il disait, c'est un classique. Et moi, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'un classique ne serait pas pornographique ? Avec la police, c'est très curieux parce qu'à l'époque, éditer Sade, ça vous faisait entrer automatiquement dans la catégorie des gens. Déjà, c'était la brigade mondaine. La brigade des mœurs, c'est la brigade mondaine. Donc, j'étais considéré comme quelqu'un qui se plaçait entre les souteneurs, les tenanciers de clandés, puisque les bordels avaient été interdits, donc les tenanciers de bordels clandestins, etc., etc. C'est tout un monde... Et d'ailleurs, c'est vrai que je vendais à l'époque des Sades dans des librairies qui étaient tout à fait étonnantes. Des librairies qui vendaient des livres clandestins. Je me souviens d'une librairie, par exemple, pour en parler parce qu'elle n'existe plus, qui était rue du Ponceau. C'est près de la rue Saint-Denis. Et ce type vendait à la fois, il se vendait une quantité de choses interdites. C'est-à-dire, bon, des livres, bien sûr, il n'en vendait pas tellement, mais des godemichés, ce qu'on appelle l'œil de biche, des choses comme ça, qui étaient totalement, tout ce qu'on trouve dans les sex shops aujourd'hui, mais qui étaient totalement interdits. Donc il était perquisitionné sans arrêt, en même temps il était un peu mouchard, c'était un type assez marrant. Vous voyez que l'édition, ça mène à de curieuses fréquentations.
Camus vous disait que Sade était un grand moraliste.
Oui. Oui, ce qui d'une certaine manière est vrai. Il y a une pratique de la morale. Il n'y a pas une morale. Il n'y a jamais de système chez ça. Donc il n'y a pas une morale qui dit telle chose est bien, telle chose est mal. Il y a une morale de la conduite qui est justement, on pourrait résumer ça très grossièrement, hein, en disant faut pas faire les choses à moitié. Mais pour l'influence des lectures, c'est au procès qu'il y a eu cette réplique de Paulhan qu'on a beaucoup cité après, justement sur le danger des lectures. Le président lui disait. À un moment, mais enfin, Monsieur Paulhan, vous qui êtes décoré, etc., était au dignitaire de la Légion d'honneur, candidat à l'Académie française, où il a été après, vous ne pouvez, n'allez pas nous dire que c'est une lecture sans conséquence. Et il a répondu, mais Monsieur le Président, je pense bien, et d'ailleurs, je vais vous en donner un exemple qui va dans votre sens. Je connais une jeune fille qui a lu Sade et qui est entrée au couvent tout de suite après.
Moi, j'arrive chez Pauvert peu après la parution d'Histoire d'eau, mais quelques mois après, hein, et au début de la réimpression du dictionnaire de Littré. J'arrive tout d'un coup chez quelqu'un qui est quasiment tout seul, hein, et il travaille avec sa femme. Moi, je rentre dans un petit bureau. Jean-Jacques, il aimait les petits bureaux. Il y avait un petit bureau, puis je vois un type... qui a mon âge, 15 ou 16 mois de plus que moi, vous voyez, on est de la même génération, quoi, hein, exactement. Il a mon âge, il est grand, et puis alors, tout de suite, son visage me frappe. parce que je ne sais pas si vous voyez le visage de Jean-Jacques, hein, il n'a pas le visage de tout le monde. Il avait des lunettes, il avait un œil vif, perçant, il avait une moustache noire, et il avait surtout ce qu'on appelle des pattes de lapin, vous savez, des cheveux qui descendaient jusqu'au niveau de la bouche. Moi, je n'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Ouais. Donc déjà, physiquement, il m'impressionnait. Il est aimable, il est souriant. Il me pose des questions habituelles, dont il n'écoute pas tellement les réponses d'ailleurs. Hein. Et puis après, il se met à me parler pour savoir un peu peut-être que ce que j'étais, quoi. Alors, et puis mon rapport avec le livre. Bon, moi j'ai expliqué que je lisais depuis que je savais lire, quoi. Hein. J'ai appris donc depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Et dès que j'ai commencé un livre, je ne me suis plus arrêté, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est marrant parce qu'on a découvert que, par exemple, dans les livres d'enfants, tous les deux, enfants, on avait lu toute la comtesse de Ségur. C'était drôle, parce qu'après, on a réédité la comtesse de Ségur. Bon, et puis après, c'est lui qui m'explique longuement ce qu'il veut faire. Une maison d'édition dans laquelle il ne publiera que ce qui l'intéresse, en disant, moi j'ai 4 pôles d'intérêt, la défense de la langue française, le fantastique, le surréalisme et l'érotisme. C'était pas mal quand même, hein, ça couvre déjà un terrain assez convenable et tout. Et puis il m'explique tout ça, bon, et puis il me cache pas, il me dit, c'est une aventure, hein, on y va, on sait pas où on va. Et il me dit, alors ça vous intéresse? Moi j'ai dit oui. Voilà comment je suis entré chez Jean-Jacques Pauvert avec une équipe ultra restreinte, on était 4 et on faisait de tout. Alors il y avait le littré, ben, il fallait faire des paquets du littré pour envoyer le tome 1. Après, une fois que les paquets étaient faits, il fallait les amener à la poste. Alors Jean-Jacques, Christiane, Fred et moi, on faisait des paquets. C'était pas encore la grande aventure en Italie, tout là, il fallait faire des paquets. Et puis après, petit à petit, les choses se sont agrandies, d'autres auteurs sont venus, et la maison d'édition est devenue plus importante. Et alors, assez rapidement, comment dirais-je? Oui, disons que j'étais plus pratique que lui, quoi. J'ai senti qu'il voulait me confier, en fait, lui s'occupait de la question purement littéraire, et moi je m'occupais de l'intendance, si vous voulez. On n'était pas nombreux, donc pourquoi pas. Naturellement, les premiers problèmes, les vrais problèmes, qui ont toujours été des problèmes, hein, mais enfin, qui étaient assez aigus à l'époque, c'était les problèmes financiers. Parce que Jean-Jacques, il voulait faire beaucoup de choses, il n'avait pas d'argent. Donc, il fallait jongler avec les finances. Il m'a un peu appris à jongler, et après, il m'a doucement refilé le travail à faire avec ce qu'on appelle la cavalerie financière, c'est-à-dire, bon, une espèce de trafic difficile à expliquer, mais enfin, avec des chèques de complaisance que vous déposez pour couvrir un découvert. Après, il faut courir pour aller chercher de l'argent et arriver à payer le chèque, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, bon, on avait un coursier qui se baladait toute la journée, 5 ou 6 comptes en banque. Il fallait qu'il aille déposer des chèques dans un compte, aller en retirer dans un autre, aller retirer de l'argent dans un autre, et aller reposer de l'argent dans un troisième. Enfin, c'était complètement dément, c'était épuisant. Moi, j'ai commencé comme ça, Jean-Jacques était ravi parce que il le faisait plus, parce que c'était lui qui le faisait avant. Bon, ça s'est bien passé, j'ai bien compris. Ça s'est mal terminé, quoi, naturellement. Un jour, la banque a plus voulu payer, on s'est retrouvé avec une ardoise de 7 millions de francs, même des anciens francs, à l'époque, ça faisait beaucoup. Je crois que c'est Julliard qui nous a sortis du trou. Si vous voulez, moi, je suis donc resté 17 ans. Pendant 17 ans, j'ai connu des problèmes financiers. Mais on est parti, si vous voulez, voyez, de façon extrêmement artisanale, quoi. Artisanale, mais avec quelqu'un qui, lui, avait une idée précise de ce qu'il avait l'intention de faire, et il n'avait pas l'intention de se laisser arrêter pour quoi que ce soit, y compris la censure. Tout ça ne le gênait pas. Dans un certain sens, il y avait de la provocation aussi, mais pourquoi pas, hein, parce que finalement, cette censure était idiote, et on a réussi à pas à la faire terminer, parce que la loi n'a pas été tellement changée, mais elle dort, elle est dans un coin. Il faut prier qu'il n'y ait pas un jour quelqu'un qui revienne et qui la ressorte. C'est pour interdire n'importe quoi aussi. Ding, ding, ding.
J'aime les pierres, je n'aime pas les fanatiques. J'aime André Breton, je n'aime pas Raymond Marcellin. J'aime Henri Michaud, je n'aime pas les fusils à lunettes. J'aime les maisons, je n'aime pas les romans de Moria. J'aime la bonne cuisine, je n'aime pas les caniches tondues. J'aime Baudelaire, je n'aime pas le quartier de la Défense. J'aime les liaisons dangereuses, je n'aime pas l'inexactitude. J'aime les femmes, je n'aime pas la gauche, je n'aime pas la droite. J'aime Venise, la France et la langue française. Je n'aime pas la tour Montparnasse, j'aime les outils. Je n'aime pas le football.
En 2013, vous publiez, Frédéric Martin, Sad Vivant, un livre qui fait plus de 1200 pages, je ne sais pas quel poids il fait. C'est une biographie de Jean-Jacques Pauvert sur Sade, qui avait déjà, il en avait fait une version un petit peu plus réduite, je crois, qui avait été publiée chez Lafon. Et là, c'est une version augmentée, retravaillée. Ça correspond à 70 ans de travail, je pense, de Jean-Jacques Pauvert. Alors peut-être qu'il serait temps maintenant de parler un petit peu plus de cette relation très forte qu'il y a entre Jean-Jacques Pauvert et Sade. En quoi Sade pourrait être la figure majeure de Jean-Jacques Pauvert ?
Je vous fais deux réponses pour expliquer pourquoi Sade égale Pauvert et Pauvert égale Sade. La première, elle est très simple. Pauvert était un homme des bois. Quand vous lisez le testament de Sade, il demande juste un truc, à être enterré sous un buisson et qu'un arbre pousse. Et d'ailleurs, dans son château de Lacoste, la seule chose qui l'importait, c'était la forêt aux alentours. C'était pas un châtelain dans le sens où il voulait avoir du beau mobilier et tout, non. Il voulait cette nature et effectivement, les forêts de l'arrière-pays provençal sont des lieux quasiment telluriques. Enfin, il y a des choses très fortes. Et donc ça, c'est une parenté, mais très très nette entre les deux hommes. Jean-Jacques finit dans la forêt des morts, qui est une forêt très ancienne. Merlin aurait pu y mettre sa résidence secondaire. C'est une forêt de chêne-liège, dans un pays tellement accidenté qu'elle n'a jamais été véritablement habitée. Il y avait juste des charbonniers qui la fréquentaient pour faire couper du bois. Et ça, c'est le même rapport au réel que celui de Sade. Et l'autre réponse, elle est plus intellectuelle. Quand Deleuze a travaillé sur Spinoza, il a dit un truc qui était « Spinoza, c'est très intéressant parce que c'est le seul qui fonde une éthique sur une ontologie. » C'est-à-dire que la norme morale que met en place Spinoza est basée simplement sur une ontologie, c'est-à-dire une connaissance de soi. Eh bien, quand vous regardez Sade, c'est exactement la même chose. Le seul écart, on va dire, entre Sade et Spinoza, à mon sens, c'est que dans la philosophie spinozienne, votre force, donc votre joie, est directement proportionnelle à celle que vous suscitez chez les autres. Chez Sade, la matrice est renversée. C'est-à-dire que dans le sadisme, plus produisez une souffrance chez l'autre, plus vous jouissez. Voilà, c'est la seule rupture entre les deux. Mais sinon, finalement, mais j'ai l'impression que le système sadien et le système spinozien se divisent juste sur ça, mais sinon, dans leur démarche, c'est qu'est-ce qui est bon ou mal dans la vie. C'est ce qui est bon ou mal pour moi, et mon seul travail, c'est d'avoir la connaissance la plus approfondie de ce que je suis. Eh bien, cette démarche-là est exactement celle que moi j'ai cru comprendre en côtoyant Jean-Jacques. C'est pas un amoral, c'est un homme d'une grande moralité, mais sa moralité, il l'a fondée sur une connaissance intime de ce qu'il était. Et s'il avait le sentiment que quelque chose était juste dans ce qu'il était, dans son intégrité, eh bien, c'est qu'elle devait être bonne. Et ce qui explique, par exemple, la détermination avec laquelle il a pu publier, alors on dit Sade, mais il a pu aussi publier Les Décombres de Rebatté, qui est un texte un peu problématique, antisémite, ordurier sur certains trucs. Il avait une grande admiration aussi pour Céline, il adorait la lecture de Céline. Et ça, cette prise de position par rapport à, je dirais plus à la vie qu'aux idées, parce que pour lui, lire Céline ou Sade, c'était pas juste des aventures cérébrales, ça l'habitait complètement. Il les jugeait qu'à l'aune de sa personne. Et c'est ce qui a fait sa force d'éditeur, c'est que vous pouviez être un procureur, une autorité littéraire, et lui faire, ou essayer de lui faire croire que Sade, c'était pas bien. Ça, mais ça le déstabilisait pas d'un poil. Ça remuait rien en lui. Parce qu'il avait cette connexion directe entre sa connaissance de lui et la responsabilité d'une œuvre dans la joie qu'il pouvait vivre. Donc pour moi, c'est ça la grande parenté entre Sade et Pauvert, et pas du tout un rapport au sadisme. Jean-Jacques avait rien d'un sadique. Il était même, je crois, un peu fleur bleue dans ses amours.
Jean-Jacques Pauvert, vous avez, je crois, une légende qui tient un peu à votre catalogue, évidemment. Et Jean-Jacques Pauvert, avec mon respect, je voulais vous demander, dans la série Détruisez votre légende, si vous étiez un obsédé sexuel.
C'est une bonne question. C'est une excellente question. Un peu inattendue, un peu brutale, mais intéressante. Un obsédé sexuel. Oui et non. Oui et non. Non, dans la mesure où je crois que ce qu'on appelle un obsédé sexuel d'habitude, enfin vraiment l'obsédé, le bonhomme qui ne pense absolument qu'à tout le côté sexuel de la vie, je crois qu'on ne les trouve pas chez les éditeurs en général, on ne les trouve pas chez les écrivains non plus, on les trouve chez les censeurs. Moi, c'est un autre problème. Dans la mesure où je suis, où je vous dis oui, je suis un obsédé sexuel, ça veut dire que le côté social du sexe m'intéresse beaucoup. Si vous voulez, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un peu comme l'argent, vous comprenez. Le sexe, moi j'aimerais bien qu'on soit libre de pouvoir en penser ce qu'on veut, de manière à ne pas pouvoir justement y penser. En fait, c'est toute une éducation sociale, surtout en France d'ailleurs à l'heure actuelle, toute une vieille éducation sociale catholique qui est en cause et qui fait que la société est une obsédée sexuelle. Alors dans la mesure où on essaie de débarrasser la société de ses complexes, on devient à son tour un obsédé sexuel parce que c'est un combat de tous les jours, ce qui est mon cas.
En même temps, vous publiez Histoire d'eau.
54. Juin 1954, à quelques semaines près, en même temps que Bonjour Tristesse.
Ça aussi, c'est une aventure.
Deux grands succès de la littérature féminine. Ah, Histoire d'eau, ça a été une aventure extraordinaire. Et ça a commencé comme ça, en 1952-53. Je voyais beaucoup Paulhan, que j'ai vu d'ailleurs tout le temps, comme ça, jusqu'à sa mort, avec des éclipses, et Paulhan me disait toujours « Ah, cher ami, écoutez, j'ai un manuscrit formidable, vous savez, c'est un très grand livre, c'est un chef-d'œuvre, et puis par-dessus le marché, il n'y a que vous qui puissiez le publier, personne d'autre ne publiera ça, il y a des risques, enfin, il ne disait pas très bien ce que c'était, vous savez, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ce manuscrit. » Puis au bout d'un an ou deux, je me suis lassé de lui réclamer tout le temps ce manuscrit qu'il ne me donnait jamais. Ça, c'était tout Paulhan. Hein. Il excitait les gens comme ça, puis rien ne venait. Bon, alors je ne lui parlais plus de rien. Puis un jour, rue Jacob, il pleuvait, mais je me souviens très bien qu'il pleuvait. Et je rencontre Paulhan, puis on parle de choses et d'autres. Et tout d'un coup, c'est lui qui me dit « Ah, mais vous savez, cher ami, avec sa petite voix très, très flûtée comme ça, il sortait d'un grand corps. J'ai sur moi, je l'ai là à la main, ces papiers que j'ai, ce classeur, c'est le fameux manuscrit dont je vous parle depuis si longtemps. » Moi, je dis, bon, bah, oui, donnez-le moi. Enfin, vous verrez, bon, puis ça, c'était un peu flou. Je rentre chez moi et j'ouvre le manuscrit d'Histoire d'eau, que je lis évidemment à peine commencé, comme ça, jusqu'au bout. Jusqu'à 2h du matin, et le lendemain matin, je téléphone à Paulhan, je crois qu'il devait être 7h30, quelque chose comme ça, je le réveille, je le tire du lit, pas très content, et je lui dis, mais voilà, c'est formidable, vous avez tout à fait raison, c'est mon livre. C'est Les Fleurs du Mal, et je suis Poulet Malassis. Et je me souviens que j'ai pensé à ça tout de suite, je me suis dit, ça va être,
je vais être le poulet malassis de ces fleurs du mal. Alors je l'ai dit tout de suite, on se voit, vous me présentez l'auteur, on fait un contrat, et alors sa petite voix toujours flûtée, ensommeillée, il me répond « Ah oui, cher ami, oui, mais voilà, je suis un peu ennuyé, j'ai oublié de vous parler d'un détail comme ça qu'il faudrait régler, c'est que le contrat est déjà signé avec un autre éditeur. »
Oh !
Oui, c'est ça, c'était aussi tout poulant, il était comme ça. Bon, alors j'ai exigé de connaître le nom de l'éditeur, donc j'ai été voir immédiatement avec dans l'idée que j'allais l'étrangler pour récupérer ce livre qui était mon livre. C'était mon livre, bon, il n'y avait pas de problème, donc j'étais prêt à mettre le feu. Et je suis tombé sur un monsieur charmant qui avait de gros ennuis, qui en plus n'était pas du tout un littéraire, il publiait des documents. Et qui m'a dit, ah oui, ce petit porno que Paulan m'a passé un jour, je suis très embarrassé de ça, qu'est-ce que je vais faire, je vais pas sortir ça, parce qu'immédiatement, moi, je serai condamné au maximum, ça vous intéresse, ben écoutez, j'ai donné 1000 francs d'Avaloir, et ben si vous me les remboursez, le contrat est à vous. Je savais pas, je les ai trouvés, et puis je suis retourné voir Paulan, je lui ai dit, voilà, j'ai le contrat, c'est mon livre, présentez-moi l'auteur. Et on a eu rendez-vous, et le texte me disait quelque chose, hein. cette écriture, je me disais, j'ai déjà lu ça quelque part. Bien sûr, il n'y avait pas le nom hein, sur le manuscrit. Alors maintenant, on peut le dire. 36 ans après, on peut le dire. J'ai donc eu rendez-vous avec Paulan et l'auteur au bar du Pont-Royal. Oui. Et quand j'ai descendu l'escalier, j'ai vu Paulan assis dans les premiers fauteuils avec Dominique Horry. Dominique Horry, qui était une dame à l'époque, on est en 54, elle a un peu plus de 40 ans. Et c'est une dame que je connais très bien à l'époque, parce qu'elle est donc secrétaire de la Nouvelle Revue Française, des Cahiers de la Pléiade. Elle travaille beaucoup avec Paulan, je la connais très très bien. Et effectivement, l'auteur d'Histoire d'eau, d'un texte comme Histoire d'eau qui se dévoile, c'est pas n'importe quoi, elle était quand même un peu sur la défensive, mais toujours très faisant face à tout. Elle a maintenant 83 ans, elle continue à faire face à toutes sortes de choses, et maintenant elle dit que c'est elle. Mais à l'époque, elle ne voulait pas. À l'époque, ses parents étaient vivants, elle venait de divorcer, elle avait un fils qui grandissait, il n'était pas question de dire que c'était elle.
Histoire d'eau, je suis arrivé quand c'était fait, hein. Et donc j'ai pas assisté aux tractations. Tout ce que je sais, c'est que Jean-Jacques me l'a raconté. Donc Histoire d'eau, ça a été écrit par Dominique Horry, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, qui était la maîtresse de Paulan. Et, dit-elle, elle a écrit ce qu'elle ne faisait pas avec Paulan, mais pour le faire fantasmer, et pour fantasmer elle-même également. Il se trouve que Dominique Horry, elle ne voulait pas le dire. Paulan non plus. Donc Dominique Horry s'est mis d'accord avec Jean-Jacques, qui a observé alors le silence le plus complet. Hein. Il ne m'a jamais dit que c'était Dominique Horry. Enfin, il ne m'a jamais dit, pendant un certain temps. Alors qu'il voyait bien que je faisais des chèques à Dominique Horry. Hein. Il ne fallait pas non plus. Donc il savait que je le savais, mais il ne voulait pas le dire. Il le disait à personne. On lui demandait qu'est-ce qu'il a écrit. Alors il disait n'importe quoi, François Sagan, Minot Drouet. Vous vous souvenez de Minot Drouet Non. Minot Drouet, c'était une petite fille qui avait écrit des poèmes et qui avait été publiée chez Julliard. Ça avait fait un succès invraisemblable, alors que c'était gentil, quoi, c'est tout, quoi. Hein. Alors, il disait que c'était Minot Drouet, parce que Minot Drouet, elle avait 10 ans, hein, à l'époque. Bon, ça pouvait faire partie de la plaisanterie, quoi. Donc, le secret a été bien gardé jusqu'au bout, quoi. Après, c'est elle qui l'a dit et tout. Mais moi aussi, j'ai été harcelé de questions. Hein. « Ah, mais tu le sais, toi, pourquoi tu ne nous le dis pas ?» Moi, je ne le disais pas non plus. Hein. Je ne me sentais pas le droit de le dire. Je ne l'ai jamais dit.
C'est un livre qui, finalement, n'a pas eu le succès que Jean-Jacques Pauvert souhaitait avoir au départ.
C'est ça, parce que quand les gens vous disent... Parce que moi, dernièrement, je discutais avec un ami qui me disait « Ouais, mais Pauvert, il a publié Histoire d'eau et Sade pour se faire du pognon. » Je dis « On n'a fait d'argent ni avec Sade, ni avec Histoire d'eau. Sade, ça ne se vendait pas. Hein. C'était connu, tout le monde en parlait, hein, mais ça ne se vendait pas. D'abord parce que plus ou moins, l'interdiction restait. Vous savez, on avait le droit de le publier, mais d'après cette loi imbécile qui existe toujours, quand un livre était interdit, comme ça, au moins de 18 ans, le libraire avait le droit de le vendre, mais il fallait qu'il aille emballer dans l'arrière-boutique et le rapporter emballé au client, qui était naturellement proprement ridicule, si vous voulez. Les trois quarts ne le faisaient pas, derrière, mais si vous étiez pris en flagrant délit, vous alliez au tribunal, hein, comme moi. Hein. bon, c'était de la contravention, quoi, c'est tout. Vous étiez en train de faire quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire. Et vous ne pouvez pas discuter parce que c'est vrai. Hein. C'est idiot, mais c'est vrai.
Le grand basculant, c'est 68, évidemment, hein, et toutes ses conséquences financières. Et comment son indépendance va être grignotée et qui va finir absorbée et qui va même y perdre son nom. Mais le grand basculant, c'est aussi le moment où déjà, il avait été aidé par René Julliard. René Julliard qui était un éditeur, là aussi, un éditeur de droite, mais un éditeur très très intelligent. C'est René Julliard qui l'avait tiré d'affaire au moment où il avait risqué une première faillite avec le Littré. Et où Gallimard Hachette s'était récupéré de Littré. Où il a failli être acheté plus ou moins par Gallimard à l'époque. Mais il ne voulait pas du tout. Alors là, vraiment, il était très très jaloux de son indépendance, c'était hors de question. Et il a trouvé cet arrangement avec René Julliard, mais qui malheureusement n'a duré que 4 ans, parce que René Julliard est mort prématurément d'un cancer du pylore en 62. Il est resté associé à la maison René Julliard. C'est là où il a commencé la collection, d'ailleurs, avec Revel, qui lui était directeur littéraire chez Julliard à l'époque. Et cette collection, Liberté, est partie chez Pauvert. Et ils sont d'ailleurs très très bien entendus, comme ils n'étaient pas d'accord sur tout, mais ils sont entendus quand même comme leur renfoir, Revel et lui. Et, mais il faut vraiment rendre hommage à Revel de cette collection, hein, aussi. Et après la mort de Julliard, les éditions Julliard, traversant elle-même une période difficile et étant plus ou moins à vendre, et il va être lâché, si vous voulez, par Julliard. Et à ce moment-là, il change de diffuseur, et il est lâché donc complètement, c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire de livres à compte et demi, à demi, comme il le faisait avec René Julliard, et donc là, il est de nouveau un petit peu, si je puis me permettre, à poil financièrement. En plus, il est mal diffusé par Hachette, parce que c'est pas du tout le type de diffuseur qu'il lui fallait, et du coup, il est de plus en plus fragilisé. En 65, il est très fragilisé. Et là, son directeur littéraire, qui travaille avec lui depuis déjà des années, Jean-Pierre Castelnau, lui apporte un certain nombre d'auteurs que lui ne voulait pas forcément éditer, mais il va finalement accepter de les éditer, mais qui sont quand même des auteurs de qualité littéraire incontestable. C'est Albertine Sarrazin, 65, et un peu plus tard, ça sera Jean Carrière, qui aura le prix Goncourt en 72. Donc là, effectivement, sa production ne ressemble plus tout à fait à ce qu'était sa production au plus près de lui.
Raphaël Lefeuvre, vous êtes professeur de design typographique à l'école Estienne. J'aurais souhaité savoir ce que représentait Jean-Jacques Pauvert pour vous.
Quelqu'un qui va faire davantage attention à l'économie du livre. Il va faire en fait beaucoup de petits livres, beaucoup aussi d'œuvres monumentales qui sont des risques incroyables. Il va singulariser dans l'objet par plusieurs caractéristiques qui sont toujours quelque chose qui a trait au choix du papier, au choix du format et un petit peu par l'hétérogénéité totale des couvertures. Il reproduit rarement le même, quoi. Chaque chef-d'œuvre intellectuel doit avoir son écrin singulier. Voilà. Mais il y a quelque chose chez Pauvert qui est une conscience qu'il y a un effet de banalisation, une facilité de production, une baisse du coût de revient dans la fabrication du livre standardisé contre laquelle il s'érige. Et quand bien même il fait sa collection à 3 francs, on voit qu'il y a une volonté de distinction. La collection de Liberté, oui, ce format un peu trop haut, et très étroit, qui fait toute son élégance et sa singularité, ce fait de colorer les tranches, qui sont de toutes petites manipulations, le choix d'un cartonnage de couverture qui est particulier, et une typographie soignée, font que même quand on travaille à l'économie, on a une considération et une attention pour toutes les matérialités de cet objet. Et je pense que ça, c'est vraiment une constante chez lui. De même que faire des livres qui n'ont jamais le même format, jamais le même poids, jamais le même volume, et où l'éditeur n'est pas une marque au sens de logotypage. Jean-Jacques Pauvert s'énonce dans n'importe quelle typographie, on pourrait dire, ou dans toutes les typographies, en tant que marque de nom d'éditeur sur une couverture. Pour moi, je l'associe très, très clairement à une volonté de ne pas banaliser l'objet, de se différencier de ceux qui en font quelque chose qui se différencie peu d'un yaourt ou d'un savon sur l'étal. Et je crois qu'il y a cette préoccupation-là. Et il y a aussi, sûrement, une habitude d'éditeur qui connaît les fabricants, qui connaît les relieurs et qui, surtout, a beaucoup, beaucoup échangé avec tous les acteurs, qu'ils soient auteurs, graphistes et fabricants, des clubs des livres.
On recevait des manuscrits toute la journée. Hein. Bon, 95 fois sur 100, ils sont nuls. Bon, après, il y a les 5% qui restent, qui posent des problèmes. Mais Jean-Jacques ne s'intéressait pas à ça. Ça ne l'intéressait pas de découvrir un talent. C'était pas son problème. Lui, si par hasard quelqu'un arrivait dont la production correspondait exactement à ses recherches, hein, à ses intentions, là, il voulait bien le faire. Mais même si c'était quelque chose qui était dont la vente était assurée, pour autant qu'on puisse dire de la vente d'un livre qu'il est assuré, parce que ça, je suis bien placé pour savoir qu'on se trompe assez facilement. Par exemple, si vous voulez, je peux vous dire que Papillon, le manuscrit, il est arrivé chez Pauvert. C'est Jean-Pierre Castelnau, c'est pas Castelli, ça nous faisait beaucoup rigoler tous les deux, que j'aimais beaucoup, qui était un ami de Jean-Jacques d'enfance et qui l'a fait venir aussi à un moment parce qu'il y avait bon, tous ces manuscrits et tout, et Jean-Pierre Castelnau jouait le rôle un peu de directeur littéraire, et c'est lui qui se tapait les manuscrits. Et comme Jean-Jacques, les manuscrits, ça ne l'intéressait pas tellement, quand il en trouvait un bon, Jean-Pierre venait me l'apporter. Hein, et me disait, lisez ça, je crois que c'est bien. Alors c'est comme ça que j'ai été le deuxième lecteur de Papillon au monde, si j'ose dire. Et j'ai tout de suite vu, comme Jean-Pierre, qu'il y avait là-dedans matière à best-seller. J'aimerais vous dire que ce n'était pas du tout l'avis de Jean-Jacques, hein, qui quand même a signé un contrat un peu poussé, et heureusement, c'était en 68. Vous savez ce qui s'est passé en 68, et nous, au sortir de mai 68, il y avait la grève partout, on ne vendait plus de livres. Hein. On ne vendait plus de livres, mais on en avait des pleins en préparation, en fabrication, qu'il fallait bien payer, quoi. Bon, alors, on n'arrivait pas à les payer, donc ça a été la catastrophe. Et d'ailleurs, on a été obligé de licencier tout le monde, y compris Jean-Pierre, hein, ce qui était un crève-cœur, hein, parce que... Enfin, moi, j'aimais beaucoup cet homme, hein, avec qui j'ai bien travaillé. En partant, il lui dit d'abord, je te dois des indemnités de licenciement, mais j'ai pas un rond pour te les donner. Ce qui était vrai. Jean-Pierre, qui était le grand seigneur, on verra. Il s'en va. Puis avant de partir, il se retourne et il lui dit, tu me donnes Papillon. Et Jean-Jacques, mais prends Papillon si tu veux. Hein. Il lui dit, il lui donne Papillon, alors qu'il y avait un contrat signé avec Pauvert. Hein. Jean-Pierre s'en va. Il était sur la porte, en train de partir. Jean-Jacques lui dit, mais si ça marche, tu me donnes un pourcentage. Combien? Alors, 2, 3, bon, ils sont tombés d'accord, je me souviens plus, sur 2 ou sur 3. Ça a rapporté des millions à Jean-Jacques. Il voulait qu'il n'a rien fait.
Chantal Aubry, essayer de définir le catalogue Pauvert.
qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Moi, je dirais d'abord que c'est une œuvre d'art, son catalogue. Parce que c'est vraiment un catalogue au plus près de lui, avec un goût littéraire extrêmement raffiné. C'est aussi l'esprit des Lumières. C'est le goût aussi pour les auteurs décadents, pour les symbolistes, pour les Barbey d'Aurevilly, les Villiers-l'Isle-Adam, les Huysmans. Voilà, moi c'est à travers le catalogue Pauvert que j'ai découvert tous ces auteurs, hein, à l'époque, dans les années 60. Ça n'est pas du tout une recherche du livre qui marche. Là, c'est vraiment la chose la plus indifférente. Ça devient le plus indifférent, et même il a une position justement sur le best-seller qui est extrêmement dédaigneuse. Et c'est aussi le goût de la polémique. Tous les jeunes, les aussi Raphaël Sorin, Guégan, etc., mais aussi des plus jeunes comme Philippe Lançon, avec qui j'ai eu l'occasion de parler, qui m'avait parlé de ces petits livres violents et si bien charpentés, qui avaient été pour lui une école de la rébellion, hein, et de l'insurrection. Voilà. Et donc cette collection Liberté, elle nous a tous marqués. Et donc l'histoire de Pauvert, c'est le compagnonnage avec Poulain d'abord, avec Bataille, avec Breton. Et donc avec le surréalisme, et puis pour cerise sur le gâteau, avec les pataphysiciens aussi, avec le collège de pataphysique, à partir du moment où il hérite, enfin qu'il lui rachète en 55 la fameuse revue Bizarre, qui va devenir encore plus bizarre. Voilà. Alors il va éditer Raymond Roussel, il va éditer Boris Vian, qui récupérera, et c'est lui qui va quand même remettre sur orbite Boris Vian aussi. On n'en finirait pas de la richesse de ce catalogue.
Alors, qu'est-ce qui fait, Chantal Aubry, qu'un jour, les éditions Pauvert vont continuer à exister sans Jean-Jacques Pauvert?
Il m'avait dit un jour comme ça... Il m'arrivera ce qui m'arrivera, mais il y a une chose qu'on ne pourra pas me prendre, c'est mon nom. Et ça m'est resté une épine dans mon cœur, vraiment, parce que c'est ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, il a d'abord été directeur appointé de la Société Nouvelle des Éditions Jean-Jacques Pauvert. C'était une création idoine, mais il n'en était que le directeur. Et ça, c'est dès 73, hein, c'est-à-dire après ce fameux Épervier de Maheu, qui est paru comme une production Pauvert à 100%, alors qu'elle était déjà une production Hachette. Mais il avait obtenu ça de Bernard de Fallois, qui à l'époque était encore chez Hachette et le soutenait. Après, on lui a collé évidemment un gérant Hachette. Et après, c'est une absorption progressive. Il n'est plus que directeur littéraire. Enfin, je vous passe le détail, jusqu'en 79, où il est licencié. Et à ce moment-là, tous les titres qui étaient des titres qu'Hachette n'avait pas vendus, n'avait pas travaillé du temps où il n'était que diffusé par Hachette, ils ont fait un choix de tous les titres les plus vendeurs. Et les titres Pauvert commencent à faire du chiffre. Mais lui, il a vendu son fonds. Voilà. Et à partir de ce moment-là, comme il est entêté, magnifiquement entêté, il va continuer à vouloir faire de l'édition. Donc, il va continuer à essayer de faire ce système de compte admis avec telle maison. Alors là, on le voit un peu partout. Beaucoup de choses avec les éditions Ramsay. Mais il va éditer chez Julliard, chez Grasset, chez Garnier, partout.
Il absorbait tout ce qu'il lisait, il absorbait tout ce qu'il regardait. Je peux pas dire qu'il s'intéressait pas aux images, puisqu'il a quand même édité Ciné, Chaval, il a fait beaucoup d'éditions de dessinateurs. Mais c'est comme s'il les avait absorbés, il n'avait pas besoin d'aller se nourrir à l'extérieur. D'une certaine manière, il se suffisait à lui-même tant qu'il avait des livres, ma mère, et éventuellement des histoires amoureuses. Et puis des histoires avec des tas de gens. Je veux dire, il correspondait avec des tas de gens. Il parlait avec toutes sortes de gens merveilleux. Il avait des conversations extrêmement élevées. À la fin de sa vie, particulièrement avec Annie Lebrun, même au moment où son cerveau a commencé à se faire la malle, il redevenait lui-même entièrement quand Annie Lebrun téléphonait. Il avait des conversations telles que je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il se disait, tellement c'était... profond. Tout était dans son cerveau.
J'aime Julien Gracq. J'aime les loutres et les mantes religieuses.
Cette photographie, moi j'ai l'impression de voir quelqu'un d'incroyablement malicieux. Et c'est ma photo préférée de papa. C'est tellement lui. La position, ce côté matois, on dirait quelqu'un qui vient de faire une bonne plaisanterie. C'est tellement ça. Il était extrêmement amusant. Quand on était en famille, on riait en permanence. C'est ça qui était bien. Je reconnais que c'était souvent au détriment... c'était souvent des rires un peu sarcastiques, un peu caustiques. Mais on s'amusait bien quand même.
J'aime les chats. J'aime Chateaubriand.
Tel qu'il est là, physiquement, il est resté comme ça jusqu'à un âge extrêmement avancé. Mince, rigolard, malicieux. Et effectivement, d'un côté assez dandy, je reconnais. Moi, je le vois surtout couvert de boue et de feuilles et amenant toujours plein de cochonneries dans la maison et se faisant engueuler par maman parce qu'on avait l'impression qu'il rentrait avec tout le jardin derrière lui.
J'aime Beckett, j'aime la boxe, j'aime Victor Hugo.
Ça n'a pas été qu'un père spirituel, Jean-Jacques. Je pense que ça a été aussi un maître par le contre-exemple. C'est que dans cet amour qu'il avait des livres et cette pudeur aussi qu'il avait par son éducation, il a, dans son entourage, sans doute oublié certains gestes, certains mots qui auraient fait du bien à beaucoup de gens. Et y compris Christiane, son épouse. Et puis, je pense que l'amour qu'il avait notamment pour Corinne et Mathias, qui étaient les deux figures très présentes dans sa vie, c'était quelque chose qui était compliqué pour lui. Parce que Mathias est mort très tôt. Donc la pudeur sur ces questions-là, dans la traversée, elle vient d'un deuil un peu compliqué. La dernière photo quand même de la traversée, c'est une photo de lui avec son fils. C'est la manière très pudique qu'il a eu de dire « j'ai aussi une histoire que je raconterai pas dans ce livre ». Parce que bon, c'est presque du picaresque, la traversée du livre. On traverse plein de choses incroyables, il y a du burlesque, il y a des faillites, il y a des aventures éditoriales complètement barrées. Il se retrouve avec Genet pour une expédition dans le sud de la France pour récupérer les lettres de Lou avec Apollinaire chez la vieille aimée parce qu'elle avait vieilli entre-temps. C'est des expéditions complètement improbables. Voilà. Mais il savait très bien que sa vie, c'était pas que ça. Il savait très bien qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas complètement réussies parce que sans doute il a sacrifié un peu de sa vie de famille pour réussir ce parcours d'éditeur. Par contre, de l'amour, il en avait plein, ouais, pour ses enfants notamment. Et Christiane.
Jean-Jacques Pauvert, un obsédé textuel, un documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret, avec par ordre d'apparition Jean Castelli, principal collaborateur de Jean-Jacques Pauvert, Chantal Aubry, auteur de Pauvert l'Irréductible, sorti aux éditions L'Échappée, Corinne Pauvert, sa fille, Frédéric Martin, éditeur du Tripode, et Raphaël Lefeuvre, professeur de design typographique à l'École Estienne. Archivina, Lani Laoutsana, mixage Emmanuel Couturier, coordination Christine Bernard, attachée d'émission Pascaline Bonnet.
Je n'aime pas la pleine lune.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de franceculture.fr. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour par Pascaline Bonnet. Dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.